Bonjour à toutes et à tous. Content d'être avec vous ce matin, ce jour béni que Dieu a fait. Comment allez-vous? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et nous remercions Dieu pour sa grâce. Parce que c'est cette grâce qui nous tient et qui fait que nous avançons. Nous avançons malgré les vents contraires. Je vous invite à prier avant que j'aie commencé cette méditation. Toi qui nous appelles à te suivre, Éternel, tu nous tiens la main et tu te sers aussi des temps et des circonstances afin que tu puisses te révéler à nous. Alors nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta main puissante nous guide et nous dirige et nous conduit dans le chemin de la justice à cause de ton nom. Seigneur, nous voulons être, en ce matin, être attentifs à ta voix et que nous puissions encore renouer avec ce texte et que nous puissions, que notre foi, s'il te plaît, soit fortifiée. Alors parle-nous encore et je veux me remettre là encore devant toi. Que je sois vraiment comme ton instrument, comme tu l'as décidé, Père, et que cette parole que tu as mise sur mon cœur soit aussi bénéfique à mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Bénis-nous en ton nom et que ta parole, Seigneur, qui est la vérité, nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Eric a introduit ce message de manière admirable. Et ce chant, si la mer se déchaîne, dit, il n'a pas dit que tu coulerais. La parole est simple, allons de l'autre bord. C'est une traversée, allons sur l'autre rive. Un jour, je regardais une émission, c'est de sciences naturelles. Et ça parlait d'arbres, de forêts. Comment la forêt croissait et grandissait. Comment les arbres avaient comme une forme d'intelligence. On ne sait pas d'où ça lui vient, ils disaient ça comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais l'arbre a une forme d'intelligence et en fonction du vent, en fonction des tempêtes qu'ils affrontent, en fonction des intempéries, l'arbre fait de l'écorce, l'arbre fait des races, produit des racines plus profondément, l'arbre grossit, l'arbre grandit. Waouh! Quand la tempête devient favorable à notre épanouissement, quand les tempêtes deviennent favorables à ce que nous puissions grandir. Le texte, vous l'avez certainement reconnu, au moins, même si vous ne connaissez pas les références, mais vous savez de quoi on parle. On parle de cette tempête qui a été apaisée. On les retrouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui parlent de cette tempête. Et nous allons lire celui-là, dans cet épisode-là, qui se trouve dans l'évangile de Marc, l'un des évangiles les plus courts. Mais Marc s'attache à montrer que Jésus est le Messie et que les actions s'enchaînent. Marc est un peu un homme pressé lorsqu'il écrit. Il y a comme une course lorsque Marc écrit. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. L'éditeur intitule ce court passage « Plus fort que la tempête ». Verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, donc Jésus, à l'arrière dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» pour que même le vent et le lac lui obéissent. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? Passons de l'autre côté du lac. La mission, elle n'est pas compliquée. On peut dire qu'elle est simple, même limpide. On va d'un point A à un point B. Mais Marc, ici, va s'atteler à nous montrer à travers ce récit que Dieu va se servir d'une petite circonstance de la vie des disciples afin de pouvoir révéler l'identité de Jésus. Nous le verrons au cours de ce message que par ces biais-là, Dieu vient renverser certaines croyances, certains préjugés que nous avons, une certaine assurance en nous-mêmes que nous avons, et Dieu vient à travers un événement, une circonstance, nous rappeler que nous n'avons pas regardé sur nous, mais à regarder à Christ. Vive la foi! Dans notre société maintenant, là, c'est un défi, on va dire, c'est un défi pour chaque jour. Notre société qui ne croit pas. Alors, nous qui avons fait le pas jadis, ça fait un moment avec Dieu, c'est déjà un défi de garder la foi. Mais imaginons que maintenant, pour nos jeunes, pour les plus jeunes, quel est ce défi? On est dans une société où on remet en cause l'existence même de Dieu. Notre société valorise les personnes qui réussissent sur le plan matériel. D'accord, il faut être célèbre. Donc, être notre propre milieu, être notre propre centre, être notre propre, quelque part, entre guillemets, notre propre Dieu. Compter sur nos propres capacités. C'est ça notre société. Et nous vivons là-dedans, et nos jeunes, nos enfants grandissent au milieu de cette société-là. Et parfois, notre foi est aussi en pointe de ça. Nous regardons, il est plus facile d'aborder les choses lorsque nous maîtrisons un peu les choses. Mais parfois, il y a des tempêtes, et ces tempêtes que nous traversons deviennent comme des pédagogues. Comme des pédagogues. Alors, quels sont les enseignements que nous allons pouvoir tirer de cette expérience qu'ont fait les disciples? Et c'est ce que je vous propose ce matin. Mais, vous voyez un peu la situation. On est sur, Jésus dit, il est à Galilée, il dit, on est sur le lac de Galilée, passons à l'autre bord. D'accord? Et si vous lisez la suite, et dans l'évangile de Matthieu et de Luc, chapitre 8, vous voyez, il y a une continuité. Lorsqu'il, la fin de cet épisode, ils arrivent, à Gésarée, d'accord? Donc, on est sur le lac, on parle de lac, mais c'est plutôt une mer intérieure. Vu la superficie de ce lac, on parle plutôt d'une mer intérieure, d'accord? Et cette mer, on ne voit pas d'un bout à l'autre, on ne voit pas les rives. De l'autre côté, on a dit la ville de Gésarée, c'est une ville païenne, où il y a une majorité, il y a une communauté de chrétiens, enfin de juifs, pardon, Mais de l'autre côté, c'est essentiellement des païens qui sont. Autre chose qu'il nous faut comprendre, il faut prendre en compte, pour bien saisir ce que Marc veut nous dire, c'est que les Juifs ont un rapport particulier à l'eau. Quand on parle de la mer pour les Juifs, c'est un rapport, ils ont une croyance particulière. Chez les Hébreux, c'est une croyance particulière. La mer, c'est le domaine du mal. Le mal, c'est, son domaine, c'est la mer. Et lorsque nous voyons, nous comprenons l'Apocalypse de Jean, lorsque la bête, elle sort, elle provient de la mer. Donc c'est le domaine du mal, c'est le domaine où les esprits méchants règnent. Mais il croit aussi que Dieu, l'Éternel, domine cet élément-là. Ésaïe l'écrit, les psaumes aussi le disent. L'Éternel domine cet élément-là. Donc, forcément, il y a des pécheurs et on se dit que Dieu nous donne des poissons pour notre survie. D'accord ? Donc, Dieu domine sur cet élément-là et pourvoit même à nos besoins sur un élément qui, entre guillemets, est le domaine du mal. Un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte pour bien saisir l'histoire, c'est que parmi des disciples, nous avons des navigateurs expérimentés. Je ne sais pas pour vous, c'est vous. Moi, la mer et moi, ça fait pas deux, ça fait quatre. D'accord ? Je ne suis pas le plus marin. Et parfois, chez nous, on voit ceux qui partent d'ici, pour la route du Rhum. Je dis, mais comment ils font pour naviguer sur les eaux, les grandes transats comme ça, je me dis, mais waouh, sur un petit truc, petite embarcation sur cette étendue, comment ils font pour rester des jours, voire des mois, sur à naviguer en pleine mer. Et il y en a qui, parmi les disciples, notamment Pierre, sont des personnes expérimentées, parce qu'ils ont des embarcations, ils pêchent. Donc nous voyons dans cette première partie quelque chose de... Il y a comme une limpidité dans le fait que les disciples s'exécutent. Allons de l'autre bord, ils pointent Jésus, on monte dans la barque et on commence à traverser. Parce que dans cet ordre-là, il n'y a pas de difficulté. Nous allons d'un point A à un point B. Et nous pouvons compter, bien sûr, nous avons vu Jésus agir. Avant, nous avons vu Jésus déjà accomplir certains miracles, donc Jésus est là. Bon, le monde du mal, si Jésus est là, ça va. On a déjà vu ce qu'il peut faire, donc on est assuré. Mais aussi, on a Pierre et les fils de Zébédée qui sont là avec nous. Ces navigateurs expérimentés, donc passer de ce point-là à là-bas, aucune difficulté. Et il me semble que parfois nous sommes comme ça. Dans notre vie de disciple, peut-être au début, peut-être il faudrait qu'on se rappelle de nos débuts, où nous avons certaines propositions et Jésus est là. Jésus a déjà montré qu'il est présent avec nous. Nous savons que nous avons les capacités pour faire cette tâche-là. Alors, oui, non, allons-y. Et surtout que on n'a pas forcément l'objectif. Pourquoi Jésus veut aller sur une terre païenne? Pourquoi il veut le faire? On ne sait pas. Mais on sait que Jésus, lui, il fait des miracles. Donc, il y a un prophète, et il fait des miracles. Donc, aller de l'autre côté, on va certainement voir un autre miracle. Et en témoigne encore l'attitude de ceux qui le suivent. Marc, qui est le seul à préciser qu'il y a d'autres bateaux qui suivent, il y a une foule qui suit Jésus sur là-bas, sur d'autres barques. Ils veulent voir, mais qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, c'est même si on ne voit pas, mais c'est juste de l'autre côté. Et parfois, nous abordons parfois les choses comme ça. Et je veux dire, faut pas se culpabiliser. Non. Au début de notre marche chrétienne, je pense que Dieu fait avec. Dieu nous permet, fait avec pour nous permettre de commencer à cheminer. Et parfois, lorsque il se peut pour nous que nous regardons à ses capacités, Jésus est là, mais c'est lui aussi qui nous a donné ces capacités-là. On ne va pas cracher dessus. Il nous a donné certaines capacités et nous permet de cheminer avec lui paisiblement. Parfois, et je voudrais le souligner, il arrive aussi que nous avons commencé à cheminer avec Jésus, mais en regardant à nos capacités, ça peut aussi être un frein pour nous. En regardant à nos capacités, on dit, mais je ne pourrais pas. Je ne serais pas capable. On a déjà commencé à cheminer avec Christ sur le chemin de la vie éternelle, mais passer une certaine étape, on regarde à nous-mêmes et on se dit, mais il faudrait encore que je devienne meilleur. Il faudrait que je devienne meilleur pour que je puisse suivre Christ. Ça veut dire que dans les deux cas, on regarde un peu à nos capacités. On sait que Jésus est là, on sait ce qu'il a à faire, mais aussi on regarde à nos capacités. Mais il me semble que Dieu veut qu'on y aille plus loin. Dieu veut qu'on aille plus loin. C'est vrai que Dieu nous donne des capacités, à chacun et à chacune. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans le domaine de nos capacités humaines. Il désire que nous puissions aller plus loin, franchir encore une autre étape. Premier enseignement que nous voyons dans ce texte. Les disciples ont une étape encore à franchir. Et dans notre vie de disciples, nous avons aussi ces différentes étapes à franchir. Que nous commencions la route ou que nous soyons des chrétiens de longue date, avec Dieu, il y a toujours des étapes à franchir. Et nous rappeler que ici-bas, il n'y a pas d'homme parfait. Il y a donc le mythe du chrétien parfait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien parfait. Il y a de chrétiens déclarés saints par la justice de Dieu. Des enfants de Dieu déclarés saints par sa justice. Mais des enfants de Dieu sur le chemin de la sanctification. Donc nous sommes appelés à aller de progression en progression. Allons plus loin. Verset 37 nous dit, voilà, dans cette traversée qui a été entreprise, il y a comme un grain de sable dans une machine bien rodée. Le point A est bien parti, mais lorsque nous sommes entre ce point A et le point B, cette destination, la destination finale, il y a comme un hic qui se ramène. Il y a le vent qui se lève. Il y a un vent violent qui se lève et qui bouscule, qui s'abat sur l'arbre et sur la barque. Phénomène naturel sur le lac de Galilée, entouré de montagnes, il y a cette dépression, il y a ce vent qui s'engouffre souvent sur le lac et qui bouscule violemment le lac. Mais là, certainement, il y a quelque chose d'un peu plus puissant. Je ne sais pas pour ceux qui étaient aux Antilles, c'est peut-être un Hugo catégorie 5. Je l'ai connu à 10 ans. J'avais 10 ans. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc? Mon premier cyclone. Je dis, hey, c'est quoi ce truc? On avait l'impression qu'il y avait un homme dehors en train de siffler, en train d'arracher des choses à l'extérieur. Je dis, ben, enfant, tu... Et là, les disciples sont là, avec un vent certainement de cette force-là qui met à mal les navigateurs expérimentés qui, peut-être, ils ont déjà essayé de garder à flot le bateau. Je veux dire, quand même, il y a des navigateurs. Et quand tu es en mer, si le vent se lève, tu vas te débattre. Certainement, ils ont déjà fait ça. Mais le pire, dans tout cet événement-là, on voit Jésus qui dort. Jésus dort, il est sur un coussin à l'arrière, et on dit qu'il dort. Jésus, après la journée qu'il a faite, il a passé à guérir les malades, chasser les démons, enseigner le peuple. Et naturellement, on va dire, Jésus a le sommeil du juste, parce qu'il est le seul juste. Jésus, sur un coussin, là, derrière, il dort. Et pourtant, il y a... Il est, Dans les autres évangiles, on voit qu'il y a du vent et il y a de l'eau qui rentre dans la barque. La question, c'est, est-ce que Jésus n'est pas mouillé? On ne sait pas, mais Jésus, est-ce que tu n'es pas mouillé? Qu'est-ce que tu fais? Il dort. Jésus dort tranquillement. Et là, on comprend que peut-être dans la tête des disciples, ce n'est pas écrit dans le texte, mais certainement dans la tête des disciples, tout ce qu'ils savaient, toutes les croyances qu'ils avaient avant, ressurgissent. La mer, domaine du mal, il y a du vent. Jésus est là, mais ouais, mais Jésus, lui, il dort. Bon, mais là, nous sommes des navigateurs expérimentés, mais on n'y arrive plus. On perd pied. La barque, elle coule. On fait quoi? Il nous arrive, dans nos difficultés aussi, de perdre pied. Le sommeil de Jésus, pour nous, parfois, s'apparente dans notre aujourd'hui au silence de Dieu. T'as déjà frappé, on a frappé le ciel. On se réunit dimanche après dimanche, mardi après mardi, on prie, on intercède. Mais le ciel, lui, il est de plomb, il est d'airain. Rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Est-ce que tu dors? Seigneur, m'as-tu oublié Est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de périr dans la situation dans laquelle je suis? La situation financière, elle est catastrophique. La situation avec les enfants est catastrophique. Mon foyer part en vrille. Ma santé, quant à elle-même, Seigneur, que fais-tu? Seigneur, que fais-tu? Je suis dans une situation de chômage, mais ça n'avance pas. Mais Seigneur, que fais-tu? Je ne reste pas là, je fais les démarches qu'il faut. Je ne reste pas couché à midi, mais je fais les démarches qu'il faut. Mais pourquoi tu n'ouvres pas de porte? Et parfois, tu vas passer un entretien. Ça, je vous parle d'un cas personnel, si c'est le mien. Tu passes des entretiens et l'entretien se passe superbement bien. Je dis, oui, vous avez le profil. Oui, vous avez le profil. Vous êtes la personne qu'il nous faut. On a d'autres entretiens, mais on vous rappelle. Une semaine, deux semaines, trois semaines passent. Mais on a pris quelqu'un d'autre. Et quand vous avez des petits là, comme ça, lui, Eliam avait à peine quelques mois. Elija avait 3 ans. Vous êtes un papa, Alexandra est là, et on va vous dire, une année de chômage. Tu as des trucs à payer, mais et Dieu pourvoit. Il veut que tu apprennes à ne plus compter sur ce qui fait ta force. Pour moi, c'était l'argent. La course de l'argent. À un moment, je me suis mis à mon compte, agent immobilier. Mais Dieu a balayé tout ça. Sors de là. Moi, j'avais fait le têtu, j'avoue. Mais sors de là. Mais Seigneur, je veux pouvoir sortir de là. 1 an. Et parfois, tu te dis, mais, hey, Seigneur, mais, qu'est-ce qui se passe? Ces événements, cette tempête-là, elle arrive. Ces tempêtes arrivent sur nos vies afin de nous faire perdre pied. Dans ces tempêtes-là, je crois que peut-être qu'on n'a jamais encore prié autant. On ne prie pas autant quand il y a tempête. On cherche la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On crie, on pleure, mais Seigneur, délivre-nous. Mais je crois qu'une des plus grandes leçons des tempêtes, c'est de pouvoir. Mais tu n'as pas dit que tu étais un navigateur expérimenté? Allons-y. La traversée paraît simple. Tu es un navigateur expérimenté. Allons-y. Mais au final, la tempête se dit, ben, tu n'es pas si expérimenté que ça. Parce que cette tempête nous montre notre petitesse devant Dieu. Cette tempête nous montre notre petitesse devant Dieu. Je peux avoir mon bac plus 9, 8. Peut-être comme ma soeur, je veux dire, elle, c'est bac plus 18. Tant elle a fait des études derrière. Mais je veux dire, à un moment donné, cette expérience-là, Dieu peut la balayer d'un revers de main afin qu'on apprenne à compter et à dépendre de lui. Dieu veut que ses enfants dépendent de lui. Comment Dieu va s'y prendre? Dieu veut qu'on dépende de lui. Et là, il y a Jésus qui est là. C'est-à-dire, on revient à Jésus et cet enseignement qu'on a dit, le deuxième, dépendre de Dieu, nous montre que notre dépendance à Dieu, il faut qu'on prenne conscience qu'on est dépendant à Dieu. Et c'est parfois salutaire qu'il fasse silence. Pour qu'on puisse voir que oui, effectivement, Seigneur, nous dépendons de toi. Alors Jésus, lui, Édouard et les disciples vont le bousculer. Mais Jésus, est-ce que ça ne te fait rien? Te soucies-tu pas qu'on périsse, on meurt? Alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus? Parce que, bon, ben, à la fin du texte, on dit, mais ils sont étonnés. Ils disent, mais c'est qui cet homme? D'accord? Ils se disent, mais c'est qui cet homme? J'aimerais penser qu'ils se disent, mais Jésus est un homme. Ils voient Jésus. Leur vision n'est pas encore claire sur l'identité de Jésus à cette époque. Leur vision n'est pas encore claire sur qui est Jésus. Donc, ils se disent, mais Jésus, réveille-toi, parce que il y a des choses à faire, certainement, dans la barque. Peut-être écoper, prendre ton petit bol et envoyer de l'eau à l'extérieur de la barque. Peut-être on attend ces solutions purement humaines de Jésus. Les disciples peut-être attendaient simplement une intervention aussi humaine, c'est-à-dire se lever, prendre le petit seau et envoyer de l'eau par-dessus la barque. Mais Dieu a un autre plan. Jésus a un autre plan. Dieu, pour son Fils, veut révéler aux disciples une partie de l'identité de Jésus. Jésus va se lever calmement. Et que va-t-il faire? Il va menacer le vent, menacer le lac. Et le texte nous dit, le lac s'apaise, le vent cesse de souffler. J'aurais aimé voir ça quand j'étais plus petit. C'est-à-dire, mettre devant un cyclone et se dire, mais cyclone, tais-toi. Je ne pense pas que ça aurait le même effet. Je ne pense pas que ça aurait le même effet. On a vu le 3 chez ma grand-mère s'en aller. Mes oncles et mon père s'attelaient à faire le nécessaire, humainement, à faire le nécessaire. Mais Jésus, lui, même s'il a revêtu cette humanité, il agit sur la nature, mais de manière divine. Tais-toi. Calme-toi. Et la nature obéit. Les éléments reconnaissent la voix de leur Créateur. Les éléments reconnaissent la voix de leur Créateur. Et c'est ce Créateur qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Même les tempêtes, il fait concourir pour le bien de ceux qu'il aime. Cette tempête-là était comme un pédagogue pour les disciples afin qu'ils puissent voir l'autorité de Jésus. Celui qui les a appelés. Celui qui les a choisis au début de son ministère leur a montré qu'il est capable de faire certains miracles. Il a déjà délivré, ressuscité un enfant. D'accord? Jésus est capable. Les noces de Cana, il est capable de changer l'eau en vin. Jésus, il prend soin des autres, de la foule. Alors comment se fait-il que celui qui les a appelés pour le suivre? C'est Jésus qui les a choisis. Ils n'ont pas choisi Jésus. Les évangiles nous disent, toi, viens, suis-moi. Comment se fait-il qu'ils puissent les laisser mourir? D'où sa question. Pourquoi avez-vous si peur? Ne croyez-vous plus? Et parfois, nos tempêtes nous font oublier les paroles de Jésus. Je ne te délaisserai point. je ne t'abandonnerai point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous construire un avenir et de l'espérance. Et on pourrait citer, passer notre temps là, jusqu'à cet après-midi, à citer les promesses de l'Éternel. Et parfois, nous aimons aller. Mais dans la tempête, il y a comme ce vent qui part avec. Il y a comme ce vent qui part avec ses paroles. Et Jésus leur dit, ne croyez-vous pas. Et c'est pour cela qu'il est important que la parole soit ancrée dans nos vies. C'est pour cela qu'il est important que cette parole soit ancrée dans nos vies. Au pied du mur, on voit le maçon. Au cœur de l'épreuve, on voit le disciple. Au cœur de la tempête, on voit le disciple. Qu'est-ce qui fait ta foi? Quelle est la profondeur de ta foi? Quand ils sortent de cette épreuve, les disciples ont une autre vision de Jésus. Jésus n'est plus pareil pour eux. Mais quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Il se rappelle certainement que, mais la mer, c'est l'Éternel qui domine sur elle. On a lu dans Ésaïe, on a lu dans les psaumes que c'est l'Éternel qui domine sur cet élément-là. C'est l'Éternel qui a fait, à la sortie de l'Égypte, qui a fendu cette mer en deux, c'est l'Éternel qui l'a fait. Il y avait Moïse, mais c'est l'Éternel, c'est la force de l'Éternel qui a fait souffler ce vent et qui a séparé la mer en deux. Alors, mais que se passe-t-il? Et je crois que la tempête a un peu cette fonction-là de nous révéler encore qui est le Fils de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à le suivre. Et je pense encore qu'il souhaite toujours se révéler toujours plus à nous. Peut-être pour ceux qui débutent cette marche, révéler encore plus que Jésus-Christ est Dieu et qu'il domine tout. Faire cette marche de confiance dans les épreuves de celui qui commence à cheminer avec Dieu. Que Jésus-Christ est là. Que Jésus-Christ est Dieu. Que cela, ce n'est pas une parole vaine, mais qu'elle se vit là maintenant, encore aujourd'hui. Et pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés dans la foi, nous avons déjà Jésus-Christ et Dieu. Ok, on a passé ça. Mais il y a encore des vérités qu'il nous faut que ça entre dans notre tête. Qu'il règne sur tout. Qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Que ce Jésus-là, il intercède pour nous. Mais qu'il domine tout. Tout pouvoir lui a été donné. Et il faut que cette vérité soit ancrée dans nos vies. Alors comme un bon pédagogue qu'est notre Dieu, celui qui nous aime, celui qui veut nous instruire, il permet ces temps de tempête. Afin comme les arbres dont j'ai parlé ce matin, que nous puissions grossir, que nous puissions grandir, que nous puissions nous enraciner. Que la tempête ne nous fasse pas douter de la bienveillance et de l'amour de notre Dieu. Mais gardons espoir. Il est notre secours. Il sait ce que nous vivons. Et même si le monde voit parfois, il arrive que l'issue c'est la mort. L'autre bord pour Dieu, c'est le royaume de Dieu. L'autre bord, c'est le royaume de Dieu. Donc avançons non par la vue. Parce que si nous focalisons sur ce qui est extérieur, nous sommes un peu mal. Mais avançons par la foi. La foi dans le Fils de Dieu, celui qui était couché dans la barque, mais qui s'est révélé être vraiment le rocher. Celui que même la tempête ne pouvait bousculer, réveiller. Il est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Est-ce que c'est vrai? Et j'aimerais terminer avec cette lecture. Ce sera les mots empruntés de Jacques. Jacques chapitre 1. Qui dit, chapitre 1 à partir du verset 2. Mes frères, je veux rajouter, Seigneur permet, mes frères et mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes, des femmes, des jeunes, auxquels il ne manque que rien. Que le Seigneur nous bénisse.
Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. La Bible dit que tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, tu sais pourquoi tu parles, même quand tu utilises des canaux humains comme prédicateur. Merci de cette invitation à te faire confiance. Cette parole de Jacques qui nous parle d'épreuves et d'endurance, qui nous conduit à être des hommes faits, des femmes faites, que tu donnes à nos plus jeunes de tenir pour acquis cette parole de ce matin. C'est Dieu qui les invite à tenir ferme dans les épreuves de la vie active dans laquelle ils commencent à rentrer, qu'ils puissent se fortifier, s'attendre à Dieu, chercher certes à ne pas être passifs, mais être actif, mais que dans cette action, qu'ils s'attendent à te voir entrer en scène. Seigneur, surprends nos jeunes, montre-leur que tu es celui qui, quand il éprouve, il est capable de donner la solution, la bonne. Merci pour Teddy qui nous a encouragés ce matin. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ. Amen.